Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.fm, dans l'émission Musique au pluriel, avec Christian Lux, accompagné ce jour, comme chaque fois, de Bruno Point. Nous regrettons l'absence de Paul Turchet, alité, mais qui a pu travailler avec nous pour préparer cette émission consacrée à Verdi. Cette émission sur Verdi sera suivie d'une seconde émission sur Verdi encore autour de ses dernières œuvres. Donc je peux simplement dire que Verdi, je connaissais sans connaître vraiment, mais comme beaucoup d'auditrices et d'auditeurs sans doute, de nombreuses airs, de nombreux arias sont encore dans vos cœurs et vos oreilles, puisque c'est un homme très important pour la musique européenne et même mondiale. Bruno Point, vous voulez donc nous présenter en quelques mots Giuseppe, qui est né, faut-il le rappeler, et c'est très amusant, qui est né français. Il s'appelait donc Joseph Fortuna Francis, puisque dans cette région près de Parme, dans cette région italienne, elle était sous domination napoléonienne. Donc c'était un département français qui s'appelait Taro. Voilà.
Donc Verdi, c'est un compositeur d'opéra. Il y a des compositeurs qui écrivent différents types de musique. Par exemple, Mozart était un très grand compositeur d'opéra, mais il a écrit de nombreuses symphonies, des sonates pour piano, beaucoup de choses. Non, Verdi, c'est l'opéra. Il faut que les choses soient très claires. Il a écrit un petit peu de musique religieuse. Il a écrit quelques petites pièces, surtout dans sa jeunesse, pour quatuor à cordes, mais c'est un homme d'opéra et de théâtre. Et vraiment, c'est la synthèse de la définition de ce qu'est l'opéra. L'opéra, c'est une œuvre musicale et théâtrale qui est conçue pour un orchestre et des chanteurs, quelquefois avec des chœurs, et surtout, je dirais, bâtie sur un livret. Un livret, c'est donc le scénario. En général, c'est très souvent issu de pièces de théâtre, et ça va être le cas notamment pour Verdi. Donc on est dans le théâtre avec de la musique. Verdi, c'est vraiment ça. Il y a en Italie, à cette même époque, donc Verdi, lui, il est né en 1813 et il s'éteint en 1901. Et Verdi est dans la grande époque du théâtre italien, de l'opéra italien, avec quatre grands compositeurs, Bellini, Donizetti, Rossini et Puccini. Je ne résiste pas à vous donner leurs prénoms, tellement ils sont beaux. Pour nous Français, la langue italienne est toujours merveilleuse. Vincenzo Bellini, qui lui est né en 1801, un peu avant Verdi, mais qui va mourir très jeune en 1835. Puis Donizetti, qui lui était légèrement antérieur, 1797 jusqu'en 1848, et son prénom c'est Gaetano. Giacomo Rossini, 1792 et 1868, et puis Giacomo Puccini, qui lui est le plus tardif, puisqu'il est décédé en 1924 en étant né en 1858. Donc on est vraiment, tous ces grands personnages se chevauchent, étaient d'ailleurs quelquefois très concurrents dans les places d'opéra italienne à Milan, notamment avec la Scala, et ils produisaient pratiquement un opéra par an, quelquefois plus, mais en tout cas un opéra par an, et c'était de véritables stars dans leur pays, parce que l'opéra en Italie était quelque chose, et je crois que c'est encore vrai, de très populaire. Et là, c'est très important pour Verdi, nous en parlerons, parce que Verdi avait vraiment le sentiment de venir du peuple et d'écrire pour le peuple. Nous allons passer un extrait qui est peut-être une des œuvres les plus connues de Verdi. Je vous laisse la redécouvrir.
Thank you.
Oui, ce chœur des esclaves à Jérusalem, des esclaves juifs à Jérusalem, est tiré de Nabucco. C'est une pièce, un opéra de 1832 qui a été révélateur du génie de Verdi. On considère souvent que cet air, Pappenziero, est le deuxième hymne italien. Et il a toujours un caractère sacré, il est considéré comme celui qui représente vraiment l'Italie. Parce qu'il faut le rappeler, donc tout à l'heure on a dit que Verdi était né français, il y avait un département français, mais il y avait aussi des duchés ou des comtes, des comtés, qui étaient sous domination autrichienne. Et donc les Italiens se reconnaissaient dans la révolte des Hébreux. Et Verdi, là, était déjà considéré comme celui qui pouvait soulever le peuple et reconnaître et demander l'identité nationale. Il a été donné à la Scala de Milan.
1842.
Oh, je me suis trompé, 10 ans.
10 ans, et c'est important dans l'histoire de Verdi, parce que déjà, en 42, il a 29 ans, donc en 32, il aurait eu 19 ans. C'est certes possible, mais c'est quand même un peu jeune pour sortir Nabucco. Parlons de Verdi et de son enfance, puisque la date de 1842 avec Nabucco est très importante parce que c'est le début de sa fulgurante carrière, avec notamment le Nabucco à la Scala. Donc il naît en 1813 dans un petit village qui s'appelle Busseto, et à Roncole. Exactement, je crois que c'est un hameau, hein. C'est comme à Viria, il y a les Greffets, et bien là, il y a Roncole et Busseto. Donc, dans un petit village. Et en fait, il a une enfance extrêmement intéressante parce que son père a un café. Dans ce café se produisent des marchands. Et on comprend à lire sa biographie et à regarder ce qui se passait à l'époque, que la musique est omniprésente. Il y a des musiciens ambulants qui font halte à l'auberge. Et donc, il est imprégné des airs italiens. Aujourd'hui, on connaît un petit peu les airs napolitains. Là, on n'est pas, c'est pas Naples, mais c'est la région de Parme, il y a beaucoup de musique. Et donc, il a la chance de travailler avec le très jeune, 7-8 ans, avec le curé du village qui est passionné de musique. Donc, il apprend l'orgue. Il tient l'orgue à 8 ans, à 10 ans, c'est lui qui tient l'orgue. Il succédera d'ailleurs à l'organiste en son temps. Donc on voit que cet enfant est très doué. Il est aussi très doué à l'école, où il s'intéresse beaucoup, beaucoup à la littérature. Oui. Il devient rapidement très cultivé. On voit que tout ça, ça a fait le terrain, le terreau de ce qu'il va devenir, c'est-à-dire du théâtre, de la littérature, des passions humaines et de la musique très imprégnée de couleurs italiennes. Petite anecdote, nous étions récemment avec Radio B dans une école où nous avons écouté des enfants et une des mamans d'un enfant me disait « Mon fils, il n'aime pas le foot ». Je ne l'ai pas félicité, mais je n'en pensais pas moins en me disant « Enfin, un enfant qui n'aime pas le foot et qui aimait beaucoup la musique ». Eh bien, Verdi, c'est exactement ça. Il n'aimait pas les activités sportif de tous ses petits copains à l'école, il s'isolait, il lisait des livres, et bien ça a donné Verdi. Ceci dit, il y a des petits enfants qui jouent du foot et ça donne des grandes stars et des gens qui s'expriment aussi. Donc ne soyons pas partisans. Mais disons qu'il y a aussi la musique, il n'y a pas que le foot. J'incite tous les parents à faire écouter nos émissions et... Alors, faire découvrir la musique, je pense qu'il y a aussi là un pan de la vie qui est important. Donc, très rapidement, Verdi, il est extrêmement doué. C'est un enfant précoce. Il va aller faire le conservatoire. Et au conservatoire, très curieusement, quelquefois les choses sont très bornées, je dirais même. Il va produire une œuvre... Une fugue à quatre voix, une chose très savante qui va beaucoup plaire. Il joue très bien du piano, mais le jury l'exclut, ne lui donne pas le prix parce que la position de ses mains, alors qu'il joue très bien, la position de ses mains n'est pas bonne. Donc ça va le choquer et il gardera ça toute sa vie, gardera son refus, le document qu'il refuse au conservatoire toute sa vie près de lui. J'ose imaginer que les professeurs qui ont fait ça, 10 ans après, lorsqu'il était devenu une gloire nationale, ont dû avoir la honte, parce que vraiment, il s'était trompé. On peut difficilement plus se tromper. Rapidement, il devient donc le responsable musical de son village. Et à l'époque, c'était une chose importante, l'orgue, l'orchestre. Il y avait même un petit opéra dans ce gros village. Il commence à écrire, il produit une première œuvre à Milan et cette œuvre remporte un bon succès. Mais là, le malheur va le frapper. Entre-temps, je ne vous l'ai pas dit, mais il s'est marié, il a eu 2 enfants. Et ces 2 enfants vont mourir et sa propre femme va décéder d'une méningite très probablement affectée et affaiblie par la mort de ses enfants. Et pendant 2 ans, il va être vraiment l'ombre de lui-même et pensait tout arrêter et tout changer de vie. Enfin, il n'avait plus goût à rien, ce qu'on peut tout à fait en comprendre les raisons. Mais il est obligé par contrat de produire un opéra. Et c'est là qu'il produit et qu'il va sortir Nabucco. Nabucco qui va avoir une carrière extraordinaire et qui va le lancer dans la vie musicale. Écoutons maintenant Callas dans Hernani, un opéra de cette époque de Verdi.
Thank you.
Vers cette époque, Verdi dit lui-même « Je vais arrêter de produire de la musique fanfare ». Pourquoi dit-il fanfare ? Parce qu'effectivement, nous l'avons dit dès le début de l'émission, il a été imprégné par les musiques du village, les musiques des musiciens, les fanfares, et ça va imprégner la couleur de son œuvre. Et il est à ce virage important où il veut produire des œuvres théâtrales, rentrer dans les passions humaines, Et ne plus être seulement, je dirais, alors en fait il ne l'a jamais été, mais ne plus être seulement un producteur de musique trop typée. Et donc il va rentrer dans cette phase où il va produire ses grandes œuvres dont nous allons maintenant parler. Mais néanmoins, je ne résiste pas à l'idée de vous faire écouter ce que peut être la fanfare. Et en l'occurrence, dans une de ses dernières œuvres dont nous parlerons la fois prochaine, mais c'est un peu la même chose, c'est pour retrouver des œuvres que tout le monde connaît. Voici Aïda.
Donc là, nous allons maintenant en venir à ce qu'on appelle la trilogie populaire, qui a vraiment porté Verdi au plus haut sommet de sa réputation, des honneurs et de son implantation, pourrais-je dire, dans le cœur des Italiens et aussi à travers le monde. Donc, la trilogie populaire, c'est Rigoletto, Il Trovatore et La Traviata. C'est une réalisation de sa pleine maturité. Et nous allons écouter maintenant des extraits de chacun de ses opéras. Bruno, donc.
D'abord Rigoletto, qui est donc issu d'une pièce de théâtre, Le Roi s'amuse. Rigoletto, c'est l'histoire d'un bouffon qui est nain et qui s'occupe des plaisirs de son maître et qui va vivre un véritable drame. Parce que, certes, il était prêt à toutes les compromissions pour son maître, et notamment lui fournir des maîtresses, jusqu'au jour où son maître, le duc, s'entiche de sa propre fille. Et là, le drame va rentrer dans sa vie, car il va être confronté à ce malaise absolu d'avoir permis toutes les outrances pour son maître et que finalement cela le frappe aussi et qu'il en comprend l'importance lorsque sa fille est elle-même séduite par le prince. Écoutons Rigoletto avec justement le prince qui chante La Donna Immobile.
Cento, e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual mio malvento, muto d'accento e di pensiero.
Ce sont des airs populaires, cet air est très connu et on peut imaginer à l'époque que tout le monde le chantait, que lorsque les gens et toutes les couches de la population allaient à l'opéra, ils attendaient des airs comme celui-ci qu'ils chantonnaient eux-mêmes. Mais c'est aussi un très grand compositeur qui a su marier les voix et nous allons maintenant écouter dans Rigoletto un quatuor où vous allez voir toute la science d'écriture et qui est au service du drame. On a là tous les personnages, et certains sont en façade, d'autres sont cachés, mais tous chantent, et on perçoit le drame qui se construit.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi, le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpito.
Le mie pene consolar.
Après El Rigoletto, nous allons nous tourner vers Il Trovatore, qui veut dire le trouvère. Cet opéra a été joué en 1853. Alors le trouvère, j'ai fait quelques recherches, il s'agit du troubadour, mais en langue d'oeil, cela donne le trouvère. C'est une histoire qui se situe au Moyen-Âge, dans un milieu gitan, avec des intrigues toujours très intéressantes. Là, le compositeur voulait avant tout trouver un équilibre toujours plus grand entre l'action théâtrale et la musique, entre les mots et le chant. Et c'est ce que nous allons encore découvrir à travers un morceau.
Thank you.
Des compositeurs comme Bach ou Beethoven qui écrivent de la musique que je qualifierais presque de la musique pure. Chez Verdi, la musique, c'est le théâtre. Il n'y a pas une note dans ce qu'on vient d'entendre qui ne sert pas à alimenter une scène de théâtre, une histoire racontée. Tout est au service du théâtre, mais avec la musique aussi. Donc c'est difficile, il ne s'agit pas pour cela de classer et de dire que tel compositeur est plus grand qu'un autre. Mais chacun avait sa phobie, chacun avait sa passion, chacun avait la musique qu'il avait en tête. Et bien celle de Verdi, c'est pour le théâtre. Grande, grande pièce de théâtre, La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, le fils naturel d'Alexandre Dumas, le grand romancier. La Dame aux Camélias, qui va devenir chez Verdi Traviata. Et à l'origine, c'est une personne qui existait. C'est Marie Duplessis. Marie Duplessis était une courtisane. Elle était née extrêmement pauvre. Elle était extrêmement jolie, intelligente, vive, pleine de vie. Et à Paris, elle va vivre une vie de courtisane, une vie de fête. Et elle va avoir comme amant des personnes extrêmement prestigieuses, dont Alexandre Dumas, fils lui-même, mais aussi Franz Liszt, dont nous avons parlé dans une émission récemment. C'était en fait une personne qui aimait faire la fête, qui aimait le plaisir, et qui a vécu comme une comète, puisqu'elle est morte de la phtisie à 23 ans, après avoir eu un nombre incalculable d'amants et une vie... qui en tout cas lui convenait et où elle a trouvé beaucoup de joie, même si elle s'est éteinte bien assez tôt. Eh bien, cette personne a inspiré la Dame aux Camélias et elle a inspiré Verdi avec Traviata, qui en a fait, de fait, une personne beaucoup plus triste, qui n'est pas satisfaite de sa vie, alors que Marie Duplessis, très probablement, aimait la vie qu'elle a vécue. Écoutons Traviata.
Thank you.
Le prélude de Traviata, c'est l'ouverture qui nous campe l'opéra à venir, le scénario. Donc on perçoit tout de suite à la fois la tristesse, à la fois l'amour, à la fois la passion. Mais on sait qu'on va vivre dans un drame. Juste pour rappeler que finalement Verdi a écrit deux comédies, son premier opéra, puis son dernier, dont nous parlerons dans la prochaine émission. Et au milieu de tout ça, il a écrit une trentaine de drames. Donc on voit que Verdi, il est fait pour les passions humaines, mais pas pour les comédies légères.
Donc la Traviata, on l'a traduit par la dévoyée ou l'égarée. Parfois on a même pu dire la perdue. Alors qu'elle avait découvert et rencontré enfin l'amour, elle allait bientôt s'en aller, non sans avoir été confrontée à des trahisons et à une difficulté à pouvoir assumer cet amour nouveau. Là, nous allons écouter un morceau fabuleux dont j'aimerais traduire en français, puisque là, on est bientôt près de sa mort. Elle nous dit « Adieu el passato ». Adieu beau rêve, souriant du passé, les roses de mes joues sont déjà fanées, et l'amour d'Alfred aussi me manque. Consolation, soutien de l'âme lasse, ah, souris à la femme égarée. Seigneur, pardonne-lui, reçois-la près de toi, maintenant tout est achevé, les joies, les douleurs bientôt cesseront, la tombe aux humains de tout marque la fin, il n'y aura ni larmes ni fleurs sur ma tombe, aucune croix ne portera mon nom, ni croix ni fleurs. Ah, souris à la femme égarée. Thank you.
si Verdi a écrit des œuvres qui se situent dans le passé, par exemple Aïda, c'est en Égypte, et dans le passé, Nabucco, c'est Nabucodonosor, c'était les Assyriens, donc dans un passé vraiment lointain. Eh bien là, on est dans un drame contemporain qui fait d'ailleurs écho à la vie sentimentale de Verdi. N'oublions pas qu'il a perdu son épouse et par la suite, il aura une liaison et il sera très critiqué en Italie pour cette liaison. Et avec Traviata, on ne peut pas ne pas imaginer que les accents de la tristesse exprimés par cette femme expriment aussi des amours difficiles. Continuons avec Traviata.
Thank you.
nommée Traviata Violetta, puisque tel est son nom dans cet opéra, est atteinte comme Marie Duplessis de la phtisie, et elle va mourir, mais elle va retrouver son amour qui revient la voir. C'est un peu comme Marie Duplessis qui avait abandonné son amant et mari, d'ailleurs, pour retourner faire la fête, mais lui ne l'a jamais oublié et est revenu la voir lorsqu'elle était mourante, abandonnée de tous, et s'est même occupé de ses funérailles, car très probablement cette jeune femme l'avait marqué profondément. Écoutons la fin de vie de Violetta.
Oui, donc, qu'ajouter à cette merveilleuse musique ? La fois prochaine, nous découvrirons les derniers opéras de Verdi.
Nous avons écouté aujourd'hui Le Cœur des Esclaves, extrait de Nabucco, dirigé par Riccardo Muti. Sorta e la Notte, extrait d'Hernani par Callas. La marche triomphale d'Aïda par Karajan, personnage triomphant s'il en est aussi. Puis deux extraits de Rigoletto, le premier par un grand wagnérien, histoire de changer, il n'y a pas que des chanteurs italiens qui chantent Verdi, en l'occurrence Jonas Kaufmann. Puis le trio Callas, Tito Gobbi et Di Stefano, dirigé par Séraphine dans le Quatuor. Puis le Trouvère avec Callas. Et enfin, quatre extraits de Traviata, avec notamment le prélude dirigé par Riccardo Muti, et trois airs chantés par Callas. Donc à la fois prochaine pour les derniers grands opéras de Verdi.
Au revoir.
Au revoir.